Bonjour, mon nom est Roy Ajar, je suis externe en médecine à l'Université de Montréal et je vais vous parler aujourd'hui de la constipation. La constipation chronique est l'une des plaintes digestives les plus communes en clinique. Elle occasionne des frais substantiels en consultation, références médicales et examens paracliniques. Quoique la constipation soit la majorité du temps d'origine bénigne, elle peut parfois être causée par des troubles plus sérieux. Peu importe la cause, elle reste un phénomène qui peut affecter sérieusement la qualité de vie du patient. Sa haute prévalence dans la société nord-américaine est liée en partie au régime alimentaire occidental, faible en fibres alimentaires et en fluides. La classification des causes possibles de constipation varie grandement d'une source à une autre, mais les grands mécanismes restent semblables. La constipation peut être induite par de l'obstruction, comme dans le cas d'une tumeur, d'une sténose ou d'un rectocèle par exemple, par un transit lent, dans le cas d'un diabète, d'une sclérose en plaques, d'une hypothyroïdie, d'une atteinte neurologique autre, ou même lors de la consommation de certains suppléments comme le calcium et le fer, ou même par une défécation déficiente en raison d'une atteinte neurologique centrale ou périphérique, ou d'une répression volontaire de l'évacuation des selles. Si la cause est indéterminée, la constipation est qualifiée de fonctionnelle idiopathique, isolée ou pouvant faire partie aussi d'un syndrome de l'intestin irritable. La constipation fonctionnelle est définie selon les critères diagnostiques de Rome III, qui incluent plusieurs critères comme un effort d'évacuation, des selles dures, moins de 3 selles par semaine et autres. Pour plus d'informations sur les critères de constipation fonctionnelle, je vous invite à consulter les critères de Rome III. Quand un patient se présente avec des symptômes de constipation, une anamnèse et un examen physique rigoureux doivent être effectués, puisqu'ils constituent généralement les éléments cliniques les plus efficaces pour l'identification d'une possible cause et pour une prise en charge adéquate. Il faut donc revoir avec le patient ses habitudes de selles, incluant la fréquence, la consistance, la présence de douleurs abdominales ou anorectales, de ballonnements, de difficultés d'évacuation, ou même de sentiments d'évacuation incomplète. Il faut adresser avec lui aussi la chronologie du problème afin de déterminer si sa constipation est récente ou chronique. Les circonstances d'apparition peuvent également nous orienter vers l'étiologie, des changements de diète par exemple, ou une consommation diminuée de fluides ou de fibres alimentaires. De plus, il faut interroger le patient sur les médicaments, les produits naturels, ainsi que les suppléments de prescription ou en vente libre qu'il consomme. L'utilisation de laxatifs, de suppositoires ou de lavements est à demander aussi. Les habitudes de vie, incluant entre autres la diète et son contenu approximatif en fibres alimentaires et en fluides, sont à noter également. Une revue complète du système gastro-intestinal est essentielle. Les antécédents médicaux, chirurgicaux et gynécologiques sont importants aussi. Une attention particulière doit être prêtée aux possibles antécédents de procédures digestives ou abdominales tels que des chirurgies ou des endoscopies. Les antécédents familiaux de troubles intestinaux doivent aussi être demandés. Vu la diversité des causes, une revue des systèmes neurologiques, endocriniens, psychiatriques ou autres peut être effectuée quand jugée pertinente par le médecin. Certains symptômes d'alarme doivent toujours être vérifiés, surtout chez la personne âgée ou à risque. Parmi ces symptômes, on peut compter une diminution du calibre des selles, la rectorragie, le méléna, une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes et ou une fièvre, et une fatigue inexpliquée. L'entrevue et l'examen physique peuvent être accompagnés de tests paracliniques. Ces tests ne sont utilisés généralement que lorsqu'une première tentative de traitement échoue ou quand les symptômes du patient nous orientent dès le début vers une cause organique sous-jacente. Ainsi, des tests de manométrie anorectale, de défécographie, une mesure du transit colique avec des radiomarqueurs, ou même des plaques simples de l'abdomen et une coloscopie peuvent être demandées. L'investigation de potentiels problèmes neurologiques, endocriniens ou autres peuvent être réalisées quand jugées pertinents. Chez la personne âgée, la prévalence de la constipation est plus élevée que chez la population générale. Parmi les nombreux facteurs de risque, on peut compter le vieillissement, le sexe féminin, la sédentarité, un faible niveau d'éducation, l'usage de certains médicaments, la dépression, ainsi que le simple fait de manger moins. Malgré tout, une attention particulière doit être portée aux causes obstructives plus prévalentes avec l'âge, telles que le cancer colorectal. Chez la personne âgée, un examen physique rigoureux doit être effectué avec une attention particulière sur la présence possible d'un fécalome au toucher rectal. Cette trouvaille, une complication très susceptible d'être vue chez la personne âgée, nécessite l'usage d'un laxatif, une extraction manuelle ou même une extraction chirurgicale urgente dans certains cas sévères. Il ne faut pas oublier que chez la personne âgée, la constipation peut être accompagnée plus souvent d'incontinence fécale ou même urinaire, nécessitant parfois une évaluation de l'autonomie du patient. Pour traiter la constipation chez l'adulte ou la personne âgée, on commence par instaurer des changements diététiques, incluant plus de fibres alimentaires et de fluides. D'ailleurs, le jus de pruneau est connu pour soulager la constipation dans les cas légers à modérés, et il est souvent conseillé par les médecins comme mesure diététique simple contre la constipation chronique. Si l'ajustement de la diète n'aide pas, on commence généralement les traitements médicamenteux avec du docusate de sodium, un émollient servant à soulager la constipation légère. Les fibres de psyllium et les sénosides peuvent également être utiles. S'ils ne fonctionnent pas, on peut faire usage de suppositoires de glycérine. Dans des cas plus sévères où les médicaments mentionnés précédemment ne fonctionnent pas, des agents osmotiques comme le polyéthylène glycol ou le lactulose, des laxatifs stimulants tels que le bisagodyl ou le sodium picosulfate, ou même des agents sécrétoires tels que le lubiprostone ou le linaclotide peuvent être utilisés. Ces derniers médicaments sont en général plus puissants et sont réservés aux cas difficiles. Des cas de constipation très sévères accompagnés de défécation déficiente peuvent nécessiter même une colectomie partielle ou l'injection de toxines botulinique dans le muscle puborectalis. Ces cas sont très rares. Chez tous les patients, une attention particulière doit toujours être portée sur les comorbidités et les médicaments consommés afin de prévenir de possibles effets secondaires sérieux ou d'éventuelles interactions médicamenteuses. Avant de conclure, on va aborder brièvement la constipation chez l'enfant. Celle-ci est une plainte commune dans la population pédiatrique. Il faut comprendre tout d'abord que la fréquence des selles chez l'enfant diminue graduellement avec l'âge, allant d'environ 3 selles par jour après la naissance et durant la première année, jusqu'à environ une selle par jour à l'âge de 4 ans. La constipation est plus difficile à objectiver chez l'enfant, c'est pourquoi les parents doivent être impliqués activement dans l'évaluation et la prise en charge du problème. Ainsi, ceux-ci, avec la collaboration de l'enfant quand c'est possible, doivent rapporter la fréquence des selles, leur consistance, la présence d'une possible difficulté d'évacuation ou de douleur anorectale à la défécation. Quoique le problème soit la majorité du temps fonctionnel, autrement dit bénin et sans cause apparente, un petit pourcentage d'enfants présente une constipation d'origine organique nécessitant une prise en charge plus rigoureuse. Parmi les étiologies organiques de constipation les plus fréquentes en pédiatrie, on peut compter les troubles neurologiques intestinaux, comme la maladie de Hirschsprung et la dysplasie neuronale intestinale, des sténoses congénitales du côlon, la sclérodermie, la sclérose en plaques, des anomalies anorectales comme un anus imperforé par exemple avec présence de fistules, l'hypothyroïdie congénitale, les atteintes de la moelle, une intolérance au lait de vache et la liste continue. Même si la constipation fonctionnelle idiopathique chez l'enfant n'a pas de cause démontrable, elle semble plus susceptible de se présenter durant certains moments particuliers, soit durant la transition d'aliments liquides à solides, durant l'apprentissage à la propreté et durant la rentrée scolaire. Elle reste toutefois bénigne et transitoire. Son diagnostic se fait comme chez l'adulte via les critères de Rome III, encore une fois, ou des critères incluant le nombre de défécations, la présence de douleurs anorectales et autres sont utilisés. Comme toujours, certains signes d'alarme doivent être demandés. Parmi ceux-ci, on compte le retard staturopondéral, le passage retardé de méconium après la naissance, la rectorragie, la perte de poids, la fièvre, les frissons, les sueurs nocturnes, la présence simultanée de diarrhée et l'incontinence urinaire. Ensuite, un examen physique des régions abdominales, anorectales ainsi qu'un toucher rectal doivent être performés, sans compter d'autres examens comme celui du système neurologique endocrinien ou autre qui doivent être effectués quand jugés nécessaires par le médecin. Si aucune cause n'est identifiable et qu'un premier traitement de la constipation ne fait pas effet, des examens plus poussés peuvent être demandés, comme des prises de sang et des études du transit colique similaires à celles de l'adulte. En pédiatrie, le traitement consiste principalement en de l'éducation aux parents quant à la diète de l'enfant ainsi qu'à l'approche qu'ils doivent adopter durant l'apprentissage à la propreté. Ainsi, une quantité adéquate de fibres alimentaires et de fluides doit faire partie du régime alimentaire de l'enfant, surtout quand une transition aux aliments solides a lieu. Le jus de pruneau en quantité modérée est un moyen qui s'avère souvent efficace. Si les moyens conservateurs ne fonctionnent pas, ou si la constipation est sévère avec présentation probable de fécalome, l'utilisation occasionnelle de laxatifs tels que le polyéthylène glycol peut aider. Certains jus contenant du sorbitol ou même de suppositoires de glycérine peuvent parfois aussi être utiles. Ceci dit, toute cause organique doit être adressée de façon adéquate et accompagnée si nécessaire d'un traitement additionnel de la constipation qui l'accompagne. Enfin, la constipation est un problème fréquent et présent dans toutes les spécialités médicales. Quoique bénin la majorité du temps, une prise en charge rigoureuse doit être menée afin de déceler de possibles causes sous-jacentes sérieuses ainsi que pour améliorer la qualité de vie du patient. Merci pour l'écoute.